Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps d'une histoire des Templiers dans la fabrique de l'histoire pour le 700e anniversaire légèrement dépassé de l'arrestation en octobre 1307 des dignitaires de l'ordre du Temple. Hier, notre invité Joseph Morcel nous a expliqué en quoi la vogue actuelle fantasmée du Moyen-Âge masquait malheureusement la connaissance réelle de l'époque médiévale et nous a expliqué comment il fallait revenir justement à une meilleure connaissance de cette histoire médiévale à partir des travaux des historiens. Demain, nous pourrons écouter des archives en particulier des extraits de l'émission Analyse spectrale de l'Occident, produite par Alphonse Dupron en 1959 autour des Templiers, mais également la lecture en direct d'extraits de la pièce de théâtre de 1805, Les Templiers de François Raynouard. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire reviendra sur une période, celle des années 60, où les Templiers sont revenus sur le devant de la scène en 1961. En effet, la caméra explore le temps. La fameuse émission de Stelio Lorenzi, d'Alain Decaux et d'André Castelot mettait à son programme cette même histoire des Templiers, une histoire que les autres ne souhaitait pas conclure, laissant le spectateur de cette télévision naissante seul juge de l'aventure et du jugement des maîtres du Temple. L'année suivante, en 1962, les curieux et les chercheurs de trésors rêvaient que ce trésor, justement, se trouvait du côté de la Normandie, à Gisors, là où vont s'ouvrir les fouilles archéologiques à la demande d'André Malraux. Un documentaire d'Anaïs Quien et de Charlotte Roux avec les témoignages d'Emeric Kurzawinski, d'Arnaud de Cède, de Joseph Decamp et les voix en archives de Gérard de Cède et de Roger Lemoy.
Ce monde stupide, ce monde inquiétant, garde encore jalousement sa part de mystère et de prodigieux. On souhaiterait pouvoir éplucher la terre comme une orange pour tenter de mettre à nu les trésors qui y sont encore enfouis. Roger Lemoy, gardien du château de Gisors, a creusé des trous comme les enfants qui rêvent. Et il a vu. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a vu et un écrivain l'a cru. Gérard de Cède.
Enquêtes et commentaires. Une revue de l'actualité politique et économique dirigée par Pierre Sandal. Ce soir...
Les Templiers sont parmi nous, ou l'énigme de Gisors, par Gérard de Cède. Le Pérou a ses fabuleuses cachettes où dorment les richesses incas, l'océan a ses galions engloutis, la France pour sa part recèle dans les ruines de ses antiques châteaux les prodigieux trésors des Templiers. Ces trésors ont le privilège d'appartenir à la fois au patrimoine historique, à la légende et à l'occultisme. Ils sont gravés d'hiéroglyphes, calcinés de feux sataniques et trempés du sang des preux.
Les Templiers sont parmi nous.
Sur Gisors, on a la chance d'avoir un certain nombre d'informations, de chroniques. On est sur un château de premier plan. Le texte de référence, c'est le texte d'Orderic Vital qui nous dit que Guillaume Leroux fait construire sur Gisors un château très fort, point. On peut le dire tout de suite, le château de Gisors n'a rien à voir avec les Templiers. De Cède, qui écrit dans les années 60, est quelqu'un qui va travailler finalement sur quelque chose de déjà existant. C'est sa force. Le château de Gisors existe. Les murailles sont là, le château est là, le donjon est là, la motte est là, les fameux souterrains sont là. Bon, ça n'en est pas, mais les gens y voient des souterrains. Donc tout est là, les pièces du puzzle sont en place.
On l'a cherché à Bazas, à Agen, au domaine Saint-Martin-de-Vence, au hameau de Racot en Indre-et-Loire, dans les marches de Touraine et à Valcroze dans le Var. Le trésor des Templiers est le trésor par excellence. Considérés comme martyrs de l'histoire, les moines soldats de l'ordre du Temple intriguent et questionnent. Leur spiritualité réputée déviante et leur fortune légendaire participent au mythe. La légende fascine et travaille l'imaginaire populaire. Les médias ne s'y trompent pas. En 1962, curieux, amateurs de mystères et chasseurs de trésors se bousculent à Gisors. C'est la parution du livre de Gérard de Sède, Les Templiers sont parmi nous ou l'énigme de Gisors, inspiré par l'étrange récit d'un certain Roger Lhomoy, qui a déclenché cet emballement populaire et médiatique. L'enthousiasme général amène les pouvoirs publics à intervenir. La municipalité, les archéologues, les historiens toisent avec scepticisme la motte du château de Gisors. Le ministère des Affaires culturelles s'en mêle et les journaux titrent « Malraux part à la recherche du trésor des Templiers ». Aymeric Kurzawinski.
On ne sait pas très bien quand il commence à creuser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, Lhomoy est pétri de traditions locales. C'est quelqu'un qui est de la région. Donc en fait, lui, il a complètement intériorisé tout ce qu'on racontait au 19e, dans les années 20, etc. Et qu'est-ce qu'on disait dans ces années-là? Tout simplement ce qu'on entend encore, malheureusement, dans certains sites, à savoir les souterrains qui relient le château à l'église, le souterrain qui relie le château à un autre château. Et en fait, il suit finalement ce qui se faisait déjà avant. Il se met à creuser, à chercher ce fameux trésor. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1946, c'est là où il déclare avoir trouvé une chapelle à l'intérieur de la motte.
Le Monde est à vous, le 11 novembre 1962.
Voici Roger Lhomoy, 50 ans, paysan normand de Gisors, l'homme d'une seule idée qui proclame depuis 18 ans sa foi sans défaillance dans l'existence de la mystérieuse chapelle, à laquelle, il faut le dire, il a sacrifié sa carrière, sa famille... Et, ma foi, durant des mois d'obscur cheminement souterrain, a failli sacrifier sa vie.
Alors à ce moment-là, j'ai percé la motte.
Roger Lhomoy.
Qui, naturellement, est en rognon de silex. Faut pas croire que ça c'est solide, c'est une construction. Alors j'ai traversé la motte, c'est-à-dire les 21 mètres. 21 mètres complètement. Au bout des 21 mètres, j'ai eu un moment de recul parce que j'ai tombé, n'est-ce pas, sur le sol dur. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que je me suis mis à faire un peu de radiesthésie. J'étais à Paris, quelqu'un m'avait donné des notions. Et j'étais à la maison de la radiesthésie à Paris, rue Saint-Roch. Et j'ai acheté un livre qui était écrit par un missionnaire aussi, un père blanc, je crois, un père bénédictin, je ne sais pas. Et ça m'a donné quelques notions. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que j'ai fait ma galerie. Ma galerie de 12 mètres, 10 à 12 mètres, et ensuite le puits de 5-6 mètres où j'ai tombé dans la chapelle.
Bon, alors,
pas dans la chapelle directement, mais dans un passage souterrain en plein cintre également, toujours du la fin du 11e siècle. Et ensuite, à 2,50 mètres, toujours par mon pendule, m'a indiqué, n'est-ce pas, la direction. Mais à un moment donné, il y avait un cul-de-sac, et c'est dans ce cul-de-sac, n'est-ce pas, que j'ai trouvé cette chapelle. Dans cette chapelle, une chapelle de 30 mètres de long sur 9 mètres de large, 4,50 mètres de hauteur, en plein cintre, c'est-à-dire construction est en pierre de Louvienne, pierre tendre. Et cette chapelle se compose naturellement de l'autel, naturellement, qui est nu comme le Vendredi Saint. Et ensuite, 12 statues en pierre, grandeur naturelle. Et 19 sarcophages, c'est-à-dire des sarcophages qui font à peu près 1,90 m de longueur sur environ 80 cm de hauteur. 19 sarcophages, et puis alors les 30 coffres, naturellement, de 2,50 m de long sur 1,80 m de haut sur 1,60 m de large. Ces coffres sont disposés sur 3 rangs de 10. Alors il y en a 30 exactement. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé, n'est-ce pas, une lettre aux Beaux-Arts et puis une lettre à la ville de Gisors. Naturellement, à la ville de Gisors, au bout de deux jours, j'avais la réponse, une bonne réponse, en me disant que si je continuais mes élucubrations de détraqué, qu'il me verrait dans l'obligation de me faire enfermer.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Oh, ça ne m'a pas émotionné du tout. Pas du tout. Je dis, puisque c'est cela, n'est-ce pas, ben, je vais reboucher. Et puis voilà, tout est dit.
« Emeric Kurzawinski.
Donc, le gardien est pris pour un illuminé, licencié, le trou est bouché parce qu'on était en 46 et qu'on avait autre chose à penser. Il faut savoir que Gisors a été détruit à 80%. 80%, en gros, c'est tout le centre-ville. Il y a des morts, il y a des gens qui sont blessés, il y a des sans-abri, il y a des problèmes économiques puisque les gens ne peuvent pas vivre, etc. Donc,
oui, puis en plus, il y a des prisonniers allemands qui sont encore sur Gisors.
Voilà, donc on embauche les prisonniers allemands, ils travaillent à la reconstruction, donc on leur demande de boucher le trou réalisé par Lomois. Et puis ça s'arrête là, hein, bien évidemment.
Enquête et commentaires, le 16 octobre 1962.
L'affaire de Gisors est celle d'un manuel, d'un homme simple, Roger Lomois, ancien gardien du château qui, voici 16 ans, commença et poursuivit durant des nuits son travail de taupe dans la butte du donjon de Gisors. Gérard de Seyde retrace les étapes de cette affaire de Gisors dans son livre « Les Templiers sont parmi nous » ou « L'énigme de Gisors ». Laissons-lui la parole.
Roger Lomois est un personnage effectivement assez extraordinaire. Roger Lomois, c'est cet homme assez fruste, fils de simple paysan du Vexin, qui, un beau jour, après avoir pensé à se destiner à la prêtrise, est saisi par une nouvelle et une tout à fait étrange vocation. Il se convainc, sur la foi de légende, qu'un trésor est enfoui sous le donjon du château de Gisors, sa ville natale.
Ce trésor, dit-on, est accessible à une seule période de l'année.
Oui, la légende ajoute que ce trésor ne peut être trouvé qu'une fois par an, la nuit de Noël, au moment précis où le prêtre, à la messe de minuit, lit la généalogie. Le reste du temps, il est gardé, fermé, par des grilles de fer hermétiquement closes. Roger Lomois est un homme secret. Sa parenté avec la légende, c'est précisément cette manière de ne se livrer que peu à peu et par petits morceaux. Et c'est un personnage extraordinaire où on peut dire que toute sa force a l'air de s'être concentrée dans ses mains, qui sont des mains absolument énormes.
Son aventure se résume donc en plusieurs années de recherche,
accomplie absolument seule, et de recherche qui, un jour, d'après son récit, aboutissent à une découverte assez extraordinaire. Et à ce moment-là commence la bizarrerie de cette aventure. Lomois, tout fier, va faire part de sa découverte aux autorités. La réponse qu'il reçoit est la suivante: vous n'aviez aucune autorisation pour creuser. Nous ne voulons même pas savoir si ce que vous dites est vrai ou pas. Nous allons faire combler immédiatement les trous que vous avez creusés. Vous êtes révoqué. Lomois, chassé de la ville, est réduit à un destin tout à fait tragique. Il a connu la misère et presque la cloche. Lomois ne se décourage pas et clandestinement reprend une deuxième campagne de fouilles en attaquant la motte du donjon de manière oblique cette fois-ci et en se disant « puisqu'on m'a bouché mes premières galeries, je vais retrouver cette fameuse crypte dans laquelle, naturellement, il est convaincu qu'il y a le trésor, les coffres remplis d'or, je vais retrouver cette fameuse crypte en recreusant des galeries obliques. » Ce qui fait que, même après son échec, Lomois n'a pas abandonné, ce qui fait que sa campagne de fouilles s'étend sur des années et des années, plus de 2000 nuits de travail au total.
Le Monde est à vous, le 11 novembre 1962.
Rappelons les faits. Le gardien du château de Gisors, Roger Lomois, en 1962, il fait sa réapparition officielle, épaulé par un livre de 300 pages qui apporte à sa thèse des arguments nouveaux. L'auteur de l'ouvrage est notre confrère Gérard de Seyde, un journaliste adroit, cultivé, curieux d'archéologie et d'ésotérisme. Mis par le hasard, en présence de Roger Lomois, il a adopté sa thèse, couru les bibliothèques et les lieux mêmes, et il croit pouvoir conclure qu'il existe non seulement une chapelle souterraine, mais encore une énigme de Gisors, inscrite dans les rapports entre le château du XIIe siècle et les Templiers et leurs trésors, peut-être trésors d'archives, ce qui n'est pas moins précieux. Au point qu'il a intitulé son ouvrage « Les Templiers sont parmi nous » ou « L'énigme de Gisors ».
Mais alors, Arnaud de Seyde, quelle était la thèse de votre père dans ce livre, puisque lui, il prend parti sur ce mystère du trésor des Templiers?
La thèse générale, c'est que ces Templiers, on connaît une partie de leur histoire, on sait qu'ils ont été éliminer hein, un motif politique que l'on connaît, et sur la base d'un procès un petit peu falsifié. Et on sait donc qu'ils ont disparu, et on sait aussi que leurs biens ont été dévolus à d'autres ordres, notamment à l'ordre des hospitaliers, majoritairement, et puis à d'autres petits ordres, comme ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'est devenu leur argent. Alors cette histoire de trésor templier, elle est à la fois crédible et pas crédible. Elle est crédible parce que les templiers avaient assuré des fonctions de banquiers dans leur pérégrination. Donc ils disposaient effectivement, ils entreposaient de l'argent. Elle est aussi peu crédible parce que vraisemblablement, les gens qu'ils ont condamnés se sont emparés d'une partie de cet argent. Donc l'hypothèse suivant laquelle une partie importante de ce trésor est échouée quelque part n'est pas absurde. Elle ne repose sur aucune preuve, ce qui est différent, mais pour autant, elle n'est pas absurde.
Arnaud de Cède, qu'est-ce qui a amené votre père, Gérard de Cède, à rédiger cet ouvrage, publié en 1962, « Les Templiers sont parmi nous
». Officiellement, c'est une rencontre plus ou moins fortuite avec un dénommé Roger Lemoy, qui était ouvrier agricole, qui était venu travailler dans une exploitation qui était dirigée par mon père. Donc il est arrivé et s'est mis à raconter une histoire qui était assez intrigante pour quelqu'un qui connaissait un petit peu les choses. Et cette histoire, donc il racontait avoir procédé à des fouilles illégales au demeurant dans le château de Gisors et y avoir trouvé des choses qui et que. Mon père, ayant fricoté avec les surréalistes avant, pendant et un petit peu après la guerre, avait un certain goût des histoires pittoresques. Et notamment des histoires pittoresques, mais cohérentes. Parce que ce qui était intéressant dans l'histoire de Lemoy, c'est qu'elle était pittoresque et qu'elle contenait une certaine cohérence. C'est-à-dire on pouvait se demander comment ce type, qui était à moitié ivrogne, avait des références historiques plus ou moins crédible.
Un jour, donc, vous rencontrez Roger Lemoy. Que vous raconte-t-il ?
Roger Lemoy, d'abord, raconte très peu de choses.
Gérard de Cède.
Il m'apprend, tout à fait par hasard, qu'il a reçu les ordres mineurs et que parmi ces ordres mineurs, il a reçu notamment celui d'exorciste. Et c'est tout à fait à la faveur de ça que je m'aperçois qu'il parle, ou tout au moins il sait par cœur, quelques fragments de latin.
Et à ce moment-là, il vous développe un peu son aventure.
Évidemment, Roger Lemoy, que j'avais connu en tant que porcher venu s'engager dans une ferme, j'étais intrigué de voir cet homme avoir un passé assez singulier pour un ouvrier agricole. Je lui ai posé quelques questions auxquelles il a répondu qu'avec réticence, et peu à peu, il m'a raconté son aventure. Et comme il s'agissait d'un homme qui, dans la vie quotidienne, était réservé, raisonnable, un très bon travailleur, petit à petit, j'ai quand même été impressionné par le destin extraordinaire qui avait été le sien. Et ça donnait évidemment envie d'aller voir sur place au moins une chose, s'il ne se vantait pas quand il avait déclaré avoir creusé au total près de 100 mètres de galeries souterraines en secret sous le donjon de Gisors.
On va contourner les arbres.
Là, on va un beau soleil.
Aymeric Kourzavinski, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la cour du château de Gisors. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les lieux ?
Dès qu'on rentre en fait dans cette première enceinte de pierre, la première chose qu'on voit, c'est la motte. Donc en fait, une énorme butte en terre fabriquée, construite, hein, sur laquelle on a une fortification, donc une énorme enceinte en pierre avec un donjon de défense au milieu. C'est un château de premier plan. C'est un château de premier plan. Les chroniqueurs, déjà du Moyen-Âge, du Xe, XIe siècle, en parlent comme le site qui va être la clé de la Normandie. Hein, c'est-à-dire que selon de quel côté on est, ou bien c'est la clé qui va ouvrir la Normandie, ou bien c'est la clé qui va fermer la Normandie. Voilà.
Je pense...
Gérard de Cède.
...que, évidemment, les gens se sont intéressés de très près à cette forteresse qui a toutes les apparences et même dans une certaine mesure la réalité d'un château fort, mais qui pourtant a été bâti selon des critères astronomiques extrêmement précis, ce qui quand même est presque unique dans l'architecture militaire médiévale, ce qui en fait un monument, oui, à la fois militaire, si vous voulez, et religieux.
On parle quand même d'une occupation templière pendant quelques années.
Alors, là, on est dans un petit passage, probablement moins de 3 ans, entre 1158 et 1161, où le château venait tout juste d'être récupéré par le roi de France, hein, 1145, et Henri II Plantagenet et Louis VII se mettent d'accord sur un projet, futur projet, de mariage entre leurs enfants. Hein, et on convient que la dot de la fille du roi de France sera un certain nombre de forteresses du Vexin. Il y a Gisors, mais il y en a d'autres. Et pour valider finalement cet accord, il est contresigné par la seule force neutre de l'époque, enfin considérée comme neutre en tout cas, et bien ce sont les Templiers. Donc on a 3 Templiers signataires de cet accord. Ils sont témoins et le château est donné à la garde du Temple. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une garnison. Il a très bien pu en fait avoir juste un gardien rémunéré ou quelques hommes rémunérés par le temple et garant de la neutralité du château. Mais il est même pas certain qu'on ait eu garnison templière. Hein, absolument pas.
Le 13 octobre 1307, sur ordre du roi Philippe le Bel, les Templiers furent arrêtés et la majeure partie de leurs biens confisqués. Enquête et commentaires, le 16 octobre 1962.
Au lendemain de cette rafle monstre à travers la France, il est certain que Philippe le Bel put renflouer ses finances. Mais selon l'histoire, le pape Clément V, 11e pape français, qui fut le premier à établir sa résidence en Avignon, avait informé les chefs de l'ordre des intentions royales. Ceux-ci purent donc mettre en lieu sûr leurs trésors et les archives de l'ordre. De toute façon, il paraît probable que le reste du trésor et les archives, celles-ci n'ont jamais été retrouvées, aient été entreposées dans des cachettes inaccessibles aux non-initiés. Où se situent-elles ?
Alors là, déjà, on n'est plus dans l'histoire, hein, on est déjà dans le mythe.
Aymeric Kourzavinsky.
Alors, la fabrication du mythe, c'est quelque chose d'assez complexe, notamment parce qu'on travaille déjà sur des sources qui sont falsifiées. On est bien d'accord que travailler sur des déclarations de Templiers qui ont été torturés, c'est quand même un peu délicat.
Voilà. Et cette fuite du trésor est consignée dans les interrogatoires ?
De mémoire, un Templier, effectivement, mentionne cette fuite de 3 chariots lors de son interrogatoire. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une déclaration, ou peut-être quelques-unes, mais en tout cas, va être prise pour argent comptant.
Et sous la torture.
Et qui plus est sous la torture, va être prise par argent comptant, par tout le monde. Alors, finalement, les tortionnaires des Templiers, les agents du roi récupèrent cette information pour rajouter un petit peu plus le procès à charge qu'ils sont en train de réaliser, ça on peut le comprendre, que des historiens, et je mettrai des guillemets, réutilisent cette information sans même l'analyser, etc. Bon ben voilà, là déjà on est dans la fabrication du mythe. Alors après, vous avez tout. Hein. Ces coffres contenaient le trésor, les archives, l'Arche d'Alliance, le Saint Graal, que sais-je encore. Il est en Normandie, en Écosse, aux États-Unis, en Espagne, etc. Donc en fait, on est là dans l'exploitation, il n'y a pas d'autre mot, hein, d'une information qui est certes historique, puisqu'elle est bien donnée dans une source, voilà, mais dont tout le monde a été bien content de se repaître, hein, pour défendre un site, qui a un ouvrage, etc., dans un but promotionnel.
C'est à ce moment-là que vous vous êtes plongé entièrement dans l'histoire des Templiers et que vous êtes arrivé à une vue d'ensemble de ce que pouvait renfermer le château de Gisors.
Oui, d'abord je vérifie que cet homme ne s'est pas vanté, que le travail qu'il a accompli du point de vue matériel est proprement surhumain.
Gérard de Cède.
Et cela m'a donné envie d'aller fouiner dans différents documents.
Le problème est donc de savoir maintenant s'il y a trésor ou pas. À votre avis, d'où viendrait ce trésor ?
Mon enquête d'archiviste, si l'on peut dire, mon enquête dans les archives publiques et aussi dans les archives privées, parce que beaucoup de documents relatifs à Gisors disparaissent mystérieusement très vite des archives publiques, m'a d'abord appris que, depuis le début jusqu'à la fin, le destin du château de Gisors était étroitement lié à celui de l'ordre du Temple. Au début, parce que ce château a été bâti par Thibaut Payen, qui était le neveu duc de Payen, fondateur de l'ordre des Templiers, jusqu'à la fin, car il a été la dernière prison de Jacques de Molay avant qu'il ne soit transféré à Paris pour son supplice.
Émeric Kourzavinski.
En fait, il y avait un noble local, hein, qui s'appelle... Alors, on va en revenir aussi avec De Cède, hein, puisque ce premier noble... s'appelle Thibaut Payens. Génial. Thibaut Payens, ça nous rappelle qui ? Bah, en tout cas, ça nous rappelle rien, parce que pour nous, c'est rien. Seulement, De Cède va exploiter le mot Payens, hein, puisque Payens, c'est également le nom du premier, enfin, un des chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple. Hein. C'est comme si quelqu'un s'appelait Dupont et que vous disiez que c'était le même.
Et d'autre part,
Gérard De Cède.
Il se trouve... des documents, dont un se trouve aux archives secrètes du Vatican, témoignant que, avant leur arrestation, les Templiers avaient pu évacuer leurs trésors dans trois chars remplis de paille par la route de la mer, c'est-à-dire dans la direction de Paris à Dieppe, route qui passait et qui passe toujours par Gisors. Et j'ai également retrouvé des documents d'archives attestant l'existence d'une chapelle souterraine sous le château de Gisors, chapelle s'appelant la chapelle Sainte-Catherine. Et à ma grande surprise, ces documents et ces plans situent la chapelle sous le donjon à l'endroit même où Lemoy déclare l'avoir découverte. Et il est évident que Lemoy ne pouvait pas avoir connaissance de ces documents qui sont dispersés en plusieurs endroits et que j'ai mis moi-même énormément de temps pour rassembler. Il y a là, pour le moins, vous avouerez, un faisceau de coïncidence beaucoup plus que troublant.
Ces milliards qui dorment à Gisors, 114 milliards dorment peut-être sous le donjon de Gisors. C'est ce que révèle Gérard de Cède dans son livre « Les Templiers sont parmi nous ». Paris Jour, 24 mai 1962.
À Gisors, les archéologues se battent avec les fantômes des Templiers. Libération, 5 juin 1962.
A-t-on retrouvé le trésor des Templiers ? 25 août 1962.
Quand éclate, j'allais dire, l'affaire, puisqu'en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'en 1962, personne ne parle des Templiers. On parle d'un trésor, mais un parmi tant d'autres. Il n'y a pas de spécificité sur ce trésor. Hein. On parle d'un trésor, point. Hein. Et en fait, c'est De Cède qui va utiliser le fait divers de découverte du château pour plaquer l'explication templière. Alors là, c'est l'explosion généralisée. Hein. Alors non seulement on a la vérification par les professionnels, mais on a effectivement tous les curieux qui débarquent avec les pelles et les pioches, puisque le trésor, il est là. Donc on va aller le trouver.
Donc chasseur de trésors, radiesthésiste, puisqu'à l'époque, les radiesthésistes
voilà, tout le monde
est une figure voilà. Très courue.
Oui, tout le monde y passe. Hein, on voit des gens se balader avec des petites... on a des photos comme ça, où les gens se font photographier avec leurs petites baguettes, hein, en disant « Mais oui, je vous l'affirme, la motte est creuse. » Bon, voilà.
Emeric Kurzawinski, vous êtes historien de formation.
Oui.
Et vous êtes aussi guide conférencier sur ce site de Gisors.
Oui.
Comment on traite justement ce rapport entre l'histoire et le mythe, la légende, et notamment celle qui touche aux Templiers?
Là, quand on arrive ici, on découvre un peu un autre monde. Un autre monde parce que là, on n'est plus du tout dans une étude de documents. On est dans la croyance. Voilà. Sur Gisors, en plus de cette vision fantasmée du Moyen-Âge, se rajoute la vision fantasmée des Templiers. Et là, vraiment, on ne peut plus avoir un discours purement scientifique. Moi, j'ai une lecture qui se veut... je vois mon travail comme étant vraiment une médiation. Une médiation entre le monde scientifique et, on va dire, les grands publics. Hein. Et de cette manière-là, il faut vraiment adapter son discours, finalement, aux demandes. Les gens, ils viennent avec une attente.
Qu'avez-vous pensé de la lecture du livre de Gérard de Sède, « Les Templiers sont parmi nous » Parce que j'imagine que vous n'avez pas pu échapper à la lecture de cet ouvrage.
Effectivement, j'ai lu de Sède. Donc, on voit très, très bien que c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'histoire de France ou de l'histoire du Moyen-Âge. Les dates collent pas, les noms collent pas, les événements collent pas. Enfin, il n'y a rien qui... quand on lit le livre, il y a une cohérence. C'est un peu comme le Da Vinci Code. Hein. C'est-à-dire que quand on lit le livre, il y a une cohérence. Dès qu'on regarde un petit peu à côté, la cohérence s'écroule. C'est une cohérence qui est purement littéraire, hein, pas du tout historique.
Quand on parle de trésors, on pense toujours à des trésors d'argent. Est-ce qu'à votre sens, c'est de cela qu'il s'agit à Gisors?
Il peut s'agir certainement à Gisors d'un trésor d'argent, d'un trésor monnayable.
Gérard de Sède.
Mais personnellement, je croirais plus volontiers qu'il s'agit d'un trésor d'archives. De documents, peut-être les documents du temple qui n'ont jamais été retrouvés, et de toute façon, les archives peuvent avoir, surtout à cette époque, diverses formes, il y a même des archives de pierre.
Mais justement, Arnaud de Sède, votre père Gérard de Sède, s'interroge sur la nature de ce trésor. Et dans les médias, au moment où on l'interroge, au début de ces années 60, lorsque son livre paraît, « Les Templiers sont parmi nous », il affirme que peut-être ce trésor ne serait pas un trésor d'argent, mais un trésor d'archives, donc un trésor d'histoire, finalement.
C'est là qu'intervient, à mon sens, Plantard. Pierre Plantard avait une lubie particulière, qui était celle de trouver donc, des liens générationnels entre lui-même et un certain nombre de familles, notamment les mérovingiens. Bon, ça fait partie du côté pittoresque du personnage. Pierre Plantard était un personnage aussi assez particulier.
Un amateur de mystère, d'ésotérisme ?
Ouais, c'était plus qu'un amateur de mystère. Je crois que c'était un personnage assez étrange. Bon, on a su par la suite, en tout cas, qu'il avait fondé une petite société secrète qui s'est appelée le Prieuré de Sion, qui, semble-t-il, n'a pas comporté beaucoup d'autres membres que lui-même, par exemple. Il avait, au demeurant, pendant l'occupation aussi, fondé une petite société secrète, vraisemblablement à un seul membre, qui s'appelait les Chevaliers Alpha Galate ou un machin comme ça. Enfin bon, c'était un personnage assez curieux, passablement manipulateur. Mais néanmoins... donc ils ont trouvé un terrain d'entente parce que il semblait à l'époque que ce Pierre Plantard savait un certain nombre de choses et était disposé à fournir un certain nombre d'archives. Donc c'est sur la base de ces archives et de certaines autres, hein, il n'y a pas que du Plantard dans les Templiers, il faut faire attention à ça, mais sur la base des archives et d'un certain nombre de travaux a été publié ce livre donc en 62 si ma mémoire est bonne. Voilà en gros la genèse de ce bouquin.
Arnaud de Sède, aidez-nous à comprendre d'après vous qu'est-ce que l'on doit garder de ce livre et qu'est-ce qui pose problème.
Ce que l'on doit considérer avec méfiance, ce sont les documents qui sont présentés. Mon père les a utilisés de bonne foi parce qu'il les a fait expertiser par après avoir eu des doutes. Donc ces documents, pour une part, ont été très clairement falsifiés.
Emeric Kurzawinski.
On est là dans la, donc, dans la fabrication d'un mythe hein, dans les années 50-60. Le livre de Cède, Les Templiers sont parmi nous, sort en 62. Mais en fait, il a, on peut dire largement collaboré, mais en tout cas, ses thèses sont reprises par un ouvrage anglo-saxon qui s'appelle L'énigme sacrée, hein, The Holy Blood, Holy Grail, et qui a été entièrement pillé par Dan Brown. Hein. Et en fait, toutes les thèses développées, enfin, en tout cas en partie, développées par De Cède dans ce livre Les Templiers sont parmi nous, sont reprises par ce livre de langue anglaise qui va être porté à connaissance finalement de Dan Brown. Donc en fait, il y a un lien.
Voilà comment les idées passent la Manche.
Exactement. Alors heureusement, Gisors n'est pas cité dans le Da Vinci Code. Alors il y en a qui le regrettent, hein. Je n'en fais pas partie. C'est ambigu, c'est-à-dire que ça fait venir du monde. Donc voilà. Donc virtuellement, c'est très bien. Voilà. Quand les gens commencent à venir avec des pelles et des pioches et de la dynamite, ça devient moins drôle.
Ça arrive encore aujourd'hui ?
Alors, ça n'arrive pas à l'heure actuelle. C'est arrivé à Gisors.
Le donjon de Gisors va-t-il livrer le secret du trésor des Templiers ?
Malgré ses dénégations, André Malraux paraît parti à la recherche du trésor des Templiers. Combat, 1er octobre 1962.
Malraux cherche le trésor des Templiers sous le donjon de Gisors.
Le mystère du trésor des Templiers demeure entier. Le Figaro, 13 octobre 1962.
Maintenant, André Malraux a décidé de faire reprendre les fouilles à la suite de la publication de votre livre.
Je ne sais pas si c'est à la suite de la publication de mon livre, bien qu'il l'ait lu et ait eu l'amabilité de m'en remercier.
Gérard De Cède.
Mais si ce n'est pas à la suite de ça, c'est qu'il a de son côté un dossier dont les conclusions convergent avec celles que je développe dans mon livre. Et effectivement, les fouilles ont été recommencées sous le donjon de Gisors. Il est à peu près certain, à mes yeux, que si les Templiers ont effectivement déposé leur trésor à Gisors, ils ne l'ont pas déposé dans la forteresse elle-même qui était entre les mains de leur ennemi, le roi de France, ils l'ont déposé dans l'église à une époque où ils étaient encore couverts par l'immunité ecclésiastique. S'il a été transféré plus tard dans la fameuse chapelle que Lomoy déclare avoir trouvée, il y a été transféré depuis l'église par les souterrains qui font communiquer cette église avec la chapelle en question.
En fait, il y a eu trois fouilles.
Emeric Kurzawinski.
Il y a eu une fouille en 61. Alors, en fait, là, c'est un peu... Là aussi, hein, on est dans la fabrication du mythe. Hein, c'est-à-dire que De Cède fait un boucan pas possible avec des articles, des écrits, etc.
Des émissions de télévision.
Des émissions de télévision.
Il fait une émission avec Roger Lemoyne, voilà. Lecture pour tous, qui était très suivie.
Exactement, qui a eu un retentissement phénoménal. Il y a eu une prise de parole à l'Assemblée. Enfin, vraiment quelque chose... Une intégration finalement du mythe du trésor par l'ensemble, enfin peut-être pas l'ensemble de la population, mais par une grande part de la population. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, donc il faut qu'on réponde. Donc il fait tout ce bruit là donc forcément l'État intervient pour vérifier, et après en fait il justifie qu'il y a quelque chose en mentionnant l'intervention de l'État. C'est assez grandiose au niveau de la construction.
La boucle est bouclée.
Exactement.
Joseph Decan était en 1964 assistant de Michel de Boire, professeur d'archéologie et d'histoire médiévale à l'université de Caen.
À ce moment-là, l'archéologie française était très en retard par rapport aux grandes archéologies scandinaves, anglaises ou allemandes.
Ah oui ?
Et donc, on cherchait à implanter la bonne fouille archéologique, la fouille stratigraphique, et c'était un peu difficile. Donc, ces interventions du gardien du château,
Roger Lemoy,
avaient fait scandale un peu dans le milieu scientifique. C'était vraiment des farfouilles, nous dirions aujourd'hui. C'était complètement farfelu. C'était très dangereux pour lui parce qu'il n'avait fait aucun travail de boisement ou d'étayage, etc. Et on est sûr de cela, car lorsque Malraux a commandé de faire un sondage, on a retrouvé sa barre à mine et sa lampe à acétylène. Si bien qu'on était sûr de l'endroit où il était parvenu.
Il n'y a pas de trésor des Templiers au château de Gisors. Le ministère des Affaires culturelles avait cru au rêve d'un ex-clochard et avait fait entreprendre des fouilles de routine. Au ministère des Affaires culturelles, on est maintenant un peu embarrassé. Toutes ces fouilles ont coûté fort cher. On commence à dégager les responsabilités. Monsieur Malraux n'a rien à voir personnellement dans l'histoire du trésor des Templiers, nous a-t-on dit à son cabinet. C'est la direction de l'architecture qui lui a soumis un projet de fouille dans le but de faire réapparaître des vestiges de la civilisation, projet que Monsieur Malraux a simplement accepté. On ne cherchait pas spécialement un trésor, mais peut-être des fresques ou des vestiges d'architecture. Jean-Claude Goudot, L'Aurore, 13 octobre 1962.
Le trésor des Templiers se trouve-t-il sous le donjon de Gisors ? La municipalité décidera probablement ce soir de poursuivre les fouilles qui doivent élucider ce mystère. Le Parisien, 27 novembre 1962.
Les archéologues, par rapport à ce que je vous disais antérieurement, ne sont pas opposés à la logique d'une salle à l'intérieur de la motte. Pourquoi ? Mais justement par rapport à cette technique de tour en mottée. C'est-à-dire qu'on sait bien... Alors, on a, à l'époque, on était quand même dans les années 60, hein, on n'avait pas conceptualisé tout ça. Mais on savait qu'un certain nombre de mottes avaient parfois des structures intérieures. Alors maintenant, on les a un peu mieux détaillées. On sait qu'on a des techniques de construction de mottes qui sont différentes. Il n'y en a pas 40, mais il y en a quelques-unes. Hein. On va rubéfier le cœur d'une motte. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une structure en bois, en paille, en terre. On va y mettre le feu. Et donc, en fait, on va agglomérer ces éléments-là. Donc, qui va faire un élément solide sur lequel on va rapporter de la terre. Ou alors, on va avoir des structures en pierre à l'intérieur, des murs qui vont être construits. Ou bien, on va emmotter. Hein, ce qu'on disait, une tour initialement présente qu'on va surélever et dans laquelle on va rajouter de la terre. Donc, la logique d'une salle, alors ne parlons pas d'un trésor, mais la logique d'une salle à l'intérieur de la motte est tout à fait possible. Et alors là, par contre, après cette première fouille, il leur paraît assez évident que, en fait, la structure en terre est vide de salle. Hein, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait la structure même en pierre que l'on voit à l'heure actuelle est juste posée sur la motte. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de fondation. Il y a 50 cm de fondation, ce qui est ridicule. Hein. Donc on n'est pas sur une tour en mottée. Et parmi les sondages qui ont été réalisés, il n'y a pas d'éléments en pierre qui ont été dégagés. Hein. Le problème, c'est qu'on a Malraux. Voilà. Et avec, là aussi, des personnages qui gravitent autour, qui sont des issus, ou en tout cas dans le milieu ésotérique, néo-templiers, se revendiquant des templiers, des hospitaliers, du prieuré de Sion. Hein, voilà. Et là, on revient sur justement le prieuré de Sion de Plantard. Donc en fait, il y a un bouillonnement ésotérique hein, dans ces années-là. Et il est fort probable qu'un certain nombre de gens à la tête de l'État, peut-être n'y étaient pas, mais en tout cas, y étaient sensibles.
Est-ce que vous pouvez nous donner des noms un petit peu qu'on voit un petit
son,
peu
son chef de cabinet. Je crois que c'est Blanc.
Philippe Blanc.
Oui. Voilà, par exemple.
Inter, actualité.
Interactualité, le 12 octobre 1962.
La première journée de fouilles au château de Gisors a failli se terminer tragiquement.
Mais je ne sais pas si c'est si drôle que vous voulez bien le dire, vous allez voir. Il faut rappeler que le château de Gisors est devenu célèbre en quelques jours grâce à un étonnant ouvrage de Gérard de Sède intitulé « Les Templiers sont parmi nous ». Il y a quelques années de cela, en effet, l'ex-gardien de ce château, M. Lemoy, avait découvert, après plusieurs années de fouilles secrètes, solitaires, patientes et nocturnes, une salle immense, une véritable crypte, renfermant 13 statues, des sarcophages et une trentaine de coffres. De là à penser qu'il s'agissait du fameux trésor des Templiers et de leurs archives, il n'y avait qu'un pas. Après s'être opposée pendant des années à toutes fouilles officielles, la municipalité a néanmoins accepté ces derniers temps de creuser sous le donjon et de braver ainsi la malédiction des Templiers qui, en principe, vous le savez, s'abat sur tout profane qui veut violer leur secret. Eh bien, cette malédiction a failli être terriblement efficace aujourd'hui, puisque la galerie où se trouvaient Gérard de Sède et deux journalistes s'est éboulée. Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour les ramener à l'air libre. Un hasard, un avertissement. Il semble bien que d'une manière ou d'une autre, il soit vrai que les Templiers soient parmi nous.
Eh bien, vous le voyez, pour terminer le journal, nous avons le point d'interrogation et aussi tout de même le sourire.
Allez, je vais vous montrer quand même là où a creusé le roi. Allons-y. C'était bouché, hein. Puisqu'en fait, il a quasiment traversé la motte.
Alors là aussi, hein, c'est pareil, il a fallu qu'on mette une grille parce que les gens continuaient à y descendre, notamment l'aumois y était descendu parce qu'il n'y avait pas de système de fermeture. Il allait comme ça avec ses petits outils et puis il creusait. Donc là, on se trouve dans la première niche. Et en fait, c'est de cette niche que l'aumois part, va creuser. Enfin, il y a plusieurs galeries qui vont être aménagées, mais une des photos que l'on voit assez abondamment dans les articles, etc., où on voit l'aumois sortir, en fait, a été prise dans cette niche. Et en fait, ça continuait et ça se prolongeait au niveau de la motte.
Une dizaine de sapeurs du génie à la recherche du trésor des Templiers, auquel on ne croit pas dans les sphères officielles, mais on continue d'entretenir des rêves dorés. Monsieur Malraux et ses collaborateurs croient-ils au trésor des Templiers? Certainement pas. Mais pour mettre le point final à une affaire aux péripéties rocambolesques, pour démystifier le public, il faut jouer le jeu et démontrer qu'il n'y a rien au bout de la galerie. L'année dernière, des inconnus se sont glissés dans la galerie rouverte. Il y a quelques semaines, le chien de garde a fait fuir deux hommes qui avaient pénétré de nuit dans le donjon et étaient descendus dans la sape, causant un éboulement qui aurait pu leur être fatal. Avaient-ils l'espoir d'atteindre les premiers le trésor des Templiers? On ne le saura jamais, mais leur folle entreprise prouve que l'attrait du merveilleux est trop ancré dans le cœur de l'homme pour que l'on puisse facilement l'en déloger. Rolf Lemoine, Le Figaro, 27 février 1964.
Malraux? Qui voulait le trésor, enfin, qui voulait, c'est-à-dire qui voulait qu'on trouve. Là, bon, on n'est plus dans l'archéologie.
Emeric Kurzawinski.
Eh bien, a demandé une troisième fois aux archéologues d'intervenir. Alors là, ils ont dit, bon, écoutez, vous êtes gentils, mais là, on vous dit qu'il n'y a rien, écoutez-nous, quoi.
Donc là, on est en mars 1964.
C'est ça. Et là, du coup, c'est l'armée. Hein, c'est le génie qui intervient, une compagnie du génie. Alors, le problème, bien évidemment, de notre armée, c'est la magnifique communication de l'armée, hein, qui, si on l'appelle la grande muette, c'est pas pour rien. Donc, elle fait comme elle fait d'habitude, on ferme tout, on bloque, on interdit l'accès et on creuse. Voilà. Le problème, c'est que les défenseurs du trésor vont y voir une action visant à la récupération du trésor. On en revient toujours à la même chose, la théorie du complot. Mais c'est vrai que là, l'armée a fait son travail, mais a fait en sorte qu'on puisse revenir sur, finalement, ces découvertes. Inexistantes, du coup.
Ça ne pouvait pas mieux faire pour booster les ventes du livre, parce que c'est véritablement, dans un épisode comme celui-là,
Arnaud de Sède,
que se rejoignent la réalité et l'imaginaire. Qu'est-ce que des militaires, garants du secret, sont allés chercher et sur quelle base? Que sont-ils allés chercher à Gisors? Imaginons qu'ils aient trouvé le trésor des Templiers.
Le trésor des Templiers de Gisors, les fouilles arrêtées définitivement. Le Figaro, 14 mars 1964.
Un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié hier déclare que les fouilles entreprises à Gisors, afin de vérifier certaines assertions relatives à la présence d'un trésor sous le donjon du château, étaient achevées et avaient donné un résultat négatif.
Le Figaro, 14 mars 1964.
Il n'y a pas de trésor sous le donjon de Gisors. Au bout du souterrain, étayé par l'armée, il n'y a qu'un mur, d'où suinte l'eau de Lepte. Le Figaro, 17 mars 1964.
Le trésor des Templiers n'existait que dans l'imagination du gardien Lomois. Le conte de fées échafaudé par M. Lomois est terminé. Il est probable que cet ancien gardien du château de Gisors sourira en apprenant qu'hier était réuni au château M. de Boire, doyen de la faculté des lettres de Caen, M. Philippe Blanc, chef de cabinet adjoint du ministre des Affaires culturelles, M. Bourdil, conservateur des bâtiments de France, le colonel Lefebvre, commandant du 12e régiment du génie, M. Buntel, président du syndicat d'initiative, ainsi que des journalistes et des photographes. M. de Boire, éminent archéologue et conservateur de la 4e circonscription des fouilles historiques, déclara « À l'origine de cette élucubration, son auteur invoque le manuscrit fin XVIIe d'Alexandre Bourdet, où l'on peut lire un plan de la chapelle Sainte-Catherine. Mais ce plan est faux. C'est un faux récent, tracé d'une main moderne. Il est techniquement impossible que cette chapelle ait été construite sous une motte. Ainsi s'est écroulée hier, sous le poids de la science, de l'érudition et de la sagesse, le beau rêve du gardien Lomois. Gageons cependant que celui-ci ne démordra pas de sa certitude, mais on n'y reprendra plus les gens sérieux. J'aime à croire que c'est la dernière fois que nous nous réunissons autour de ce trou, a dit hier M. Bourdil. Bernadette Godet, Combat, 17 mars 1964.
On ne peut pas appeler ça un chantier de fouilles, hein. C'était vraiment des trous. Et on voyait des trous dans la motte, on voyait des interventions qui avaient été faites, des couloirs, des tranchées, mais ça ne peut pas s'appeler des fouilles. La fouille d'une motte castrale comme celle de Gisors, ça demande beaucoup de soins et beaucoup de précautions. Ça ne peut pas être fait comme ça, avec des engins mécaniques ou avec une pelle et une pioche. Et d'ailleurs, quand j'y suis allé une fois, c'était à ce moment-là, justement, on a vu, on a prouvé donc qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de chapelle, qu'il n'y avait pas de trésor. Et on a montré à Lomois ses outils, on l'a fait descendre dans le trou et il a pleuré. Il a pleuré parce que tout ce qu'il avait imaginé, bien sûr, s'effondrait.
Alors, bien évidemment, là-dessus, la théorie du complot, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, l'armée est intervenue, des camions sont partis et ont embarqué le trésor qui était dans la motte.
Vous savez, dans l'archéologie people, qu'on pourrait appeler, les deux mamelles sont les trésors et les souterrains. Moi qui ai fouillé pendant 30 ans des châteaux, j'ai jamais vu de souterrain et j'ai jamais vu de trésor dans les châteaux.
À l'heure actuelle, ça a tellement été brassé, refouillé, creusé, rebouché, etc., que archéologiquement, la motte du château de Gisors ne nous dira probablement plus rien. D'un point de vue scientifique, Gisors est un énorme gâchis. Hein. Énorme gâchis. Parce qu'on a un site qui est exceptionnel. On a probablement un des sites fortifiés les plus intéressants et les plus majeurs du pouvoir anglo-normand. Hein, et on n'aura aucune information sur sa conception, sur sa fabrication, etc.
Merci à Arnaud de Cède, Aymeric Kourzavinsky et Joseph Decan. Merci également à Sylvie Tourner, Claude de Hinzelin, Jean Chapelot, Yann Potin, Anne-Marie Flambard et Richer et aux petites voix de la Fabrique de l'Histoire. Lecture, Guillaume de Tonquédec. Archivina, Olivier Tossery. Prise de son, Xavier Atto. Mixage, Claude Nior. Réalisation, Charlotte Roux. Un documentaire d'Anaïs Quien. Thank you.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bonne Bolivier et Mélanie Chalandon. Le site internet sur lequel vous pouvez l'écouter pendant un mois, la télécharger jusqu'à demain matin 9h, mais également trouver des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachan. La réalisation était signée Charlotte Roux. Si vous voulez nous téléphoner pour avoir des précisions sur cette émission, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 pour nous écrire à la Maison de Radio France, 75 220 Paris 7 16, ou encore aller sur le site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire.